VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En RDC, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala a annoncé son intention de financer avec des ressources internes les élections pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Mais M. Tshibala ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un appoint qui viendrait des partenaires extérieurs. Le Premier ministre de la RDC a aussi dit hier qu'il considérait ces élections comme la priorité des priorités de son gouvernement. Et toujours en RDC, libération d'une trentaine de personnes interpellées lundi alors qu'une partie de l'opposition avait appelé à une marche pacifique contre le président Joseph Kabila. Mais la population est restée plutôt chez elle. Eddy Sango a joint à Kinshasa le numéro 1 de la police, le général Célestin Kanyama, qui est commissaire provincial.
Il y a eu tentative de troubles à l'ordre public et quelques personnes qui ont été interpellées au nombre de 34 ont été aussitôt libérées et après les avoir conscientisées à pouvoir respecter l'autorité de l'État et à respecter la procédure en ce qui concerne la tenue des manifestations.
Vous avez dit tentative des troubles de l'ordre public alors que les rassemblements, une partie de l'opposition c'est prévaut de ce que les manifestations sont autorisées par la Constitution.
Mais comment on va empêcher les gens qui ne se sont pas manifestés? Comment vous dites qu'on va empêcher les gens qui ne se sont pas manifestés? Vous n'avez pas eu de manifestation à travers la ville, province de Kinshasa. Aucune manifestation. La ville est restée très calme, c'est-à-dire on ne peut pas parler qu'on a eu à empêcher. On empêche ce qui existe. Ce qui n'existe pas, on ne l'a pas empêché.
Selon les images que l'opposition met sur les réseaux sociaux, la police avait quadrillé la ville. Et il y avait même des menaces la veille du commandant de la ville.
Non, quelle menace? Il n'y avait pas eu de menace. Il n'y avait rien qui s'est passé à travers toute la ville de Kinshasa. Tout est resté calme et il n'y avait pas eu de manifestation. Il n'y avait même pas de manifestation.
Une partie du rassemblement appelle à d'autres manifestations à partir de demain et plus tard. Est-ce que la police prévoit d'encadrer ces manifestations avec des moyens qui seront proportionnels?
Non, il ne faut pas nous amener sur un terrain qui ne nous concerne pas. Nous, comme agents de l'ordre, nous, comme police, c'est par rapport à l'autorité populaire administrative que nous agissons. Quand vous avez l'autorisation de la part de l'autorité politique administrative, nous vous encadrons. Et si vous n'avez pas cette autorisation-là, je crois que à travers tous les pays du monde, la police ne peut pas agir en dehors de l'autorité politique administrative.
La Constitution congolaise prévoit qu'on informe l'autorité. En fait, une autorisation n'est pas requise. Est-ce que déjà le fait d'avoir informé les autorités d'Alvin ne suffisait pas?
Moi, je n'entre pas sur ce terrain-là. Je vous dis tout simplement, la police à travers le monde entier dépend de l'autorité politique administrative. Quand l'autorité politique administrative autorise n'importe quelle manifestation, nous encadrons. Quand l'autorité politique administrative estime que par rapport à d'autres activités à travers la ville, que n'importe quelle manifestation qui peut être prévue, peut être reportée ou une date ultérieure, il faudrait que les gens s'inclinent.
Le général Célestin Kanyama, commissaire provincial de la police à Kinshasa, en RDC. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mercredi à Pretoria à l'appel de l'opposition pour exiger à nouveau le départ du président Jacob Zuma, cible de toutes les critiques depuis un remaniement gouvernemental controversé il y a 2 semaines. Pour la plupart militants de l'Alliance démocratique, et aussi des combattants économiques de la liberté, les deux principaux partis hostiles au Congrès national africain au pouvoir, les manifestants ont marché en direction de la présidence. Englué depuis des mois dans plusieurs affaires de corruption, le président Zuma est secoué par une nouvelle tempête politique depuis le remaniement ministériel qu'il a ordonné le 30 mars. Sur la situation en Afrique du Sud, écoutons le politologue Achille Mbembe.
Je crois que les partis de l'opposition sont tout à fait conscients du fait que ce vote de défiance n'aboutira pas du tout au renvoi de M. Zuma. Ces partis veulent tout de même marquer fortement la désapprobation du peuple sud-africain ou d'une grande partie du peuple sud-africain face à la gestion de M. Zuma, notamment qui a trait à la corruption, au changement ministériel. Pour le moment, il y a une double démarche. Il y a une démarche parlementaire qui vise à censurer M. Zuma il y a une démarche propre aux organisations de la société civile qui sont en train de se mobiliser pour faire monter la pression sur l'ANC et l'obliger à se séparer de M. Zuma.
Le politologue Achille Mbembe.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Mali a un nouveau gouvernement depuis hier soir. La nouvelle équipe gouvernementale comprend 35 membres, dont 8 femmes. Dans ce nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, il y a notamment des leaders de partis politiques, des représentants des organisations de la société civile et aussi des femmes leaders. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Parmi les ministres sortants, il y a Maître Moutaka Tall, qui était à la communication et porte-parole du gouvernement. Il est remplacé par le jeune Aruna Modibo Touré, qui devient le ministre de l'économie numérique et de la communication. Le ministre du Commerce sera aussi le porte-parole du nouveau gouvernement. Certains ténors du parti au pouvoir, les RPM, font partie de ceux qui ont quitté le gouvernement. À l'image de Maman Babi de l'emploi et de la formation professionnelle, Ousmane Kone de l'urbanisme, sans oublier Sangare Oumouba de la promotion des femmes. Sa place est désormais occupée par la présidente des organisations et ONG féminines du Mali, CAFO, à la personne de Traoré Oumoutouré. Il y a aussi des revenants comme l'actuel ambassadeur du Mali aux États-Unis, Tienan Koulibaly, qui devient le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Quant à Tienan Koulibaly, qui a signé son retour, il hérite du ministère de l'administration territoriale. On peut dire que ce gouvernement qui était tant attendu n'a pas connu beaucoup de changements aux yeux des Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Crise migratoire, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a dénoncé hier l'existence de véritables marchés d'esclaves en Libye, où les migrants sont vendus. Les explications de Florence Kim, porte-parole de l'organisation, interrogée par Anastasie Toudiech.
Des personnes sont désormais considérées comme de véritables marchandises et qu'elles sont vendues en place publique devant tout le monde et sans vergogne. Dès lors que quelqu'un n'a pas payé, par exemple, son passeur, elle va être vendue à quelqu'un qui aura besoin d'un service ou d'une main-d'œuvre. Tous ces faits sont basés sur des témoignages recueillis par des personnes qui ont pu fuir la Libye. On ne peut pas rester non seulement pas indifférent, mais bien évidemment inactif face à une telle violation des droits de l'homme. Ça ne fait qu'appuyer notre demande de devoir renforcer les capacités des autorités libyennes sur place, qui ont une véritable volonté de participer à cette urgence migratoire et d'essayer de sauver des milliers de vies aussi. Ça veut dire financièrement, ça veut dire matériellement, ça veut dire avec les ressources nécessaires pour que les autorités libyennes puissent faire leur travail. Si l'on considère que le flux migratoire essentiel part de la Libye et que la Libye fait partie d'une des causes de cette urgence migratoire actuelle en Méditerranée, la Libye et les autorités libyennes doivent faire partie absolument de la solution.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et son homologue Sergei Lavrov font des consultations en ce moment même à Moscou sur les relations entre les États-Unis et la Russie. Monsieur Tillerson espère que les Russes retireront leur soutien au président syrien Bachar al-Assad après l'attaque chimique de la semaine dernière en Syrie. Cette discussion s'annonce musclée après les échanges vifs des dernières heures entre la Russie et les États-Unis sur cette attaque imputée au régime du président syrien Bachar al-Assad. Jean-Roger Bion.
Hier à Washington, le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a estimé qu'il n'y avait pas de doute que le régime de Bachar al-Assad était responsable de l'attaque chimique du 4 avril qui a fait 87 morts, dont des dizaines d'enfants dans la province rebelle d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a même, dans une déclaration qu'il a vite dû amender face au flot de critiques, estimé que Bachar al-Assad était pire qu'Adolf Hitler. Auparavant, un haut responsable de l'administration américaine s'exprimant sous couvert de l'anonymat avait accusé Moscou de semer la confusion sur le rôle du régime syrien dans l'attaque chimique présumée pour tenter de mettre en cause les rebelles ou les djihadistes de l'organisation État islamique. Un autre haut responsable américain avait par ailleurs indiqué qu'il fallait poser aux Russes la question de leur éventuelle complicité dans cette attaque. La Russie, elle, se tient à une ligne claire. Il faut regarder du côté des rebelles. L'armée syrienne ne disposant plus d'armes chimiques depuis le démantèlement de son arsenal sous supervision internationale. Vladimir Poutine s'est également moqué des États-Unis, voulant, selon lui, rejouer le scénario des fausses preuves d'armes de destruction massive en Irak en 2003, prélude à l'invasion du pays pour faire chuter Saddam Hussein.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.